Voilà, on veut rendre grâce ensemble. Père Céleste, merci de pouvoir te rencontrer au sein de cette triunité, au sein de ce conseil de Dieu, Père, Fils et Esprit. Merci de pouvoir apprendre à mieux te connaître, à mieux être en toi comme toi tu es en nous. Merci pour ta parole incarnée au travers de Jésus. Merci parce qu'elle nous rencontre dans notre esprit, dans notre intelligence, mais aussi dans notre chair. Merci pour cette vie de résurrection, aussi cette vie par l'Esprit. Merci de nous rencontrer ce matin, corps, âme et esprit. Amen. Voilà, on est parti depuis plusieurs semaines dans un voyage autour de l'esprit. Je dis souvent, dans les milieux évangéliques pentecôtistes, on parle beaucoup du Saint-Esprit, mais il est assez peu connu en tant qu'être, en tant que personne de Dieu. On faisait de la mathématique il y a quelques semaines, 1 plus 1 plus 1 égale 1. Il n'y a pas trois dieux différents, trois personnes en Dieu. C'est un mystère dans lequel nous sommes appelés à entrer, à connaître Dieu, le rencontrer dans ce fameux conseil Père, Fils et Esprit. Les églises du premier siècle nous ont laissé le symbole des apôtres, le credo, je crois en l'Esprit Saint. Depuis un peu plus d'un siècle, qu'il y a ce renouveau pentecôtiste charismatique, les catholiques nous ont rattrapés. Au niveau théologique, il y a énormément de travail qui a été fait, de livres qui sont parus sur l'Esprit Saint, qui sont excellents. Chez nous, bon, alors on a des livres sur le baptême de l'Esprit, sur le parler en langue, voilà, mais sur la personne de l'Esprit, il y a assez peu de choses. Donc je voulais en faire un petit peu l'inventaire. Alors il y a plein de thèmes concernant l'Esprit, c'est très très riche, au travers du symbole, des images, des types, des modèles du Saint-Esprit. Donc on en a déjà vu quelques-uns. Nous sommes scellés du Saint-Esprit. On est comme quelque chose qui a été cacheté, qui est ouvert par Dieu et qui est couvert de son esprit. Il y a le souffle de Dieu. Rappelez-vous, Jésus souffla sur ses disciples et leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». Donc c'est Dieu qui souffle sur nous, son vent, cet esprit de Dieu. L'eau, le fleuve, les sources, on avait vu dans Ézéchiel comment entrer dans le fleuve, entrer dans le fleuve de l'esprit, les pieds, les genoux, la taille, et puis se laisser aller dans cette onction, dans ce fleuve de l'esprit. On avait vu le symbole de la colombe, comment est-ce que Dieu couvre nos vies et conçoit des choses à l'intérieur de nous. J'ai découvert il y a très très longtemps, les rois d'Israël, quand ils avaient un souci, ils allaient 3 jours dans le temple, dans une pièce spéciale. Et puis là, eh bien, ils faisaient de la cohésion. Ils attendaient que l'Esprit de Dieu vienne sur eux et leur dise, voilà comment agir, comment être, comment faire. Dieu a couvert la terre qui était informe et vide. Et Dieu, il a fait naître, il a fait venir à la vie toutes les choses qui y sont. Il y a 2 semaines, on a commencé à démarrer. Voilà, tout un thème qui est autour de l'onction. Le symbole de l'onction, c'est l'huile. On a vu déjà quelques textes. Première mention, là, pour ceux qui aiment travailler l'écriture, la première mention, c'est comment une chose entre dans l'écriture une première fois. Alors ça peut être intéressant, on dit, de prendre les parallèles et de travailler dans toute l'écriture, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, comment est-ce que ce thème, cette chose que Dieu va nous enseigner, est décliné dans toute l'écriture. On a vu que la première mention, c'est Jacob, Abraham, Isaac, Jacob, celui qui deviendra Israël. Son père dit, t'es un peu à l'étroit, va voir, voilà, si tu trouves une épouse dans ma famille. Et puis, Jacob part, il est un petit peu en froid avec son frère. Ésaïe. Quand je dis en froid, c'est franchement, franchement des oppositions. Et en cours de route, il vit quelque chose d'extraordinaire. Alors, il a dressé une pierre pour faire un oreiller. Bon, chacun, je ne sais pas si c'était confortable, mais... Et puis là, la nuit, il a eu une vision. Il a vu des anges monter et descendre du ciel jusqu'à la terre. Puis il a dit, waouh, ici, c'est la maison de Dieu. C'est la porte des cieux. Et le matin, quand il s'est réveillé, il avait de l'huile d'olive avec lui. Bon, il voyageait, je crois, il avait un âne, il avait des animaux, sans doute, mais il avait de l'huile d'olive. Et le matin, il a pris cette pierre et il a fait une onction, il a versé de l'huile. C'est la première mention qu'on a de ce thème dans l'Écriture. Ça se clôt au chapitre 35 de Genèse. Je voulais le lire quand même avec vous. Genèse, chapitre 35, les versets 14 à 15, c'est, s'il y a une répétition dans l'Écriture, c'est que c'est important. Sinon, on aurait cette chose-là seulement une fois. Jacob dressa un monument dans le lieu où Dieu lui avait parlé, un monument de pierre sur lequel il fit une libation, c'est-à-dire il offre de la farine ou des fruits ou quelque chose, et il versa de l'huile. Jacob donna le nom de Bethel au lieu où Dieu lui avait parlé. Ça va devenir une ville symbolique dans toute l'histoire d'Israël. C'est la maison de Dieu. Il va faire un autel et cette ville va devenir importante dans toute l'histoire du salut. Plusieurs onctions d'huile dans l'Écriture. On a vu cette première avec Jacob. Il y en a une deuxième avec l'onction sacerdotale, la prêtrise, tous les lévites. Tout sacrificateur, tout souverain sacrificateur doit être intronisé par une onction d'huile. Je fais un peu l'inventaire, j'ai trouvé cette onction dans l'Écriture. Cette onction d'un lieu, d'un endroit, l'onction sacerdotale des prêtres, l'onction royale. Les rois seront aussi intronisés, entrés dans leur fonction au travers d'une onction d'huile. Onction prophétique, comment Dieu transmet les choses de l'esprit. Une cinquième onction, eh bien, c'est celle de Jésus. Lui, il va cumuler sacrificateur, roi et prophète. Toutes les onctions sont réunies en Jésus. Sixième onction, pour l'Église, remplie de l'Esprit le jour de la Pentecôte. La septième est plus mystérieuse. Il est question de personnes dans l'Apocalypse qui sont les fils de l'huile. On le retrouve dans Zacharie. Et puis, c'est l'onction, une onction qui aura à la fin des temps, juste avant le retour du Messie. Et puis, voilà, on déclinera, on verra de quoi il s'agit. J'aimerais juste reprendre avec vous Exode 40, c'est toute la fin, comment tous les ustensiles qui servent dans le tabernacle ont été consacrés avec de l'huile sainte. Les sacrificateurs Aaron, ses fils, ont été consacrés et puis tout ça fonctionne. Et la sanction, c'est Exode chapitre 40, verset 34. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation, la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus. La gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Aussi longtemps que durèrent leurs marches, les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait de dessus le tabernacle. Quand la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle s'élève. La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle et de lui. Il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. Quand tout a été fait selon Dieu, la gloire de Dieu vient. La gloire de Dieu a rempli le tabernacle. Si vous lisez plus tard dans Deux Rois, elle va remplir le temple de Salomon. L'Esprit de Dieu veut remplir nos vies. Et quand l'esprit s'élève, bon, on le suit. S'il dit d'aller à gauche, on va à gauche. S'il dit d'aller à droite, une direction sous la conduite de l'esprit. Il n'y a rien de plus extraordinaire dans la vie. Il n'y a rien de plus motivant. Plus souvent, dans les églises, on présente le salut, la vie avec Christ, comme toutes les interdictions. Fais pas ci, fais pas ça. Va pas ici, va pas là, va pas au cinéma, fais pas... Il y a tellement de choses qu'on peut faire en Dieu, en Christ, en lui. Tellement de choses à laquelle nous sommes appelés à vivre. Recevoir l'Esprit, recevoir des dons, des services. Tous sont appelés, tous sont concernés. Alléluia. Onction royale. Alors, on va repartir de l'histoire de Saül. Première onction d'une onction royale, c'est le roi Saül, 1 Samuel, chapitre 9. Verset 27, et on lira à suivre le chapitre 10. Quand ils furent descendus à l'extrémité de la ville, Samuel dit à Saül, « Dis à ton serviteur de passer devant nous. » Le serviteur passa devant. « Arrête-toi maintenant, reprit Samuel. Je te ferai entendre la parole de Dieu. » Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül et il l'embrassa et dit « L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage ?» Aujourd'hui, voilà, et l'aventure de Saül va commencer. Verset 6, « L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais tout ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. » Quel changement quand l'Esprit de Dieu vient dans notre vie. Pouvoir accepter l'onction de Dieu, cette onction d'huile. Pouvoir dire, viens Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Viens remplir ma vie. Je veux marcher. Je veux avancer avec toi. Changer en un autre homme. Ce matin, dans les prières, il y avait le fait de ne pas être timide, d'être rempli de force, d'amour, de sagesse. C'était mon verset de baptême il y a 51 ans, de Timothée 1,7. L'esprit que je t'ai donné ne rend pas timide, mais c'est un esprit de force, d'amour, de sagesse. Donc j'ai dû apprendre à faire avec. J'aurais préféré bien cloîtrer dans ma coquille, disant, mais non Seigneur, pas moi. C'est la même chose pour Saül. Quand on veut loindre au roi, on cherche dans la famille de Kis, de son père. Il y a plein de beaux jeunes hommes. Et puis, où est-ce qu'il est? Il est caché près des bagages. Il s'est planqué dans un coin pour qu'on ne le voit pas. Samuel dit, mais il y a tout le monde. On dit, non, il y en a encore un. Mais il est caché dans les bagages. On dit, allez le chercher. Et puis là, Saül va avoir cette onction. On lit ça dans le chapitre 11, les versets 22. Tout d'un coup, j'ai un trou dans ma... C'est chapitre 10, versets 22 à 25. On consulta à nouveau l'Éternel. Y a-t-il encore un homme qui soit venu ici? L'Éternel dit, voici, il est caché dans les bagages. On courut le tirer de là. Il se présenta au milieu du peuple. Ils dépassaient tous de la tête. Samuel dit à tout le peuple, voyez-vous celui que l'Éternel a choisi? Il n'y a personne dans tout le peuple qu'il soit semblable à lui. Tout le peuple poussa des cris vive le roi. Samuel fit alors connaître au peuple le droit de la royauté. Il l'écrivit dans un livre qu'il déposa devant l'Éternel et il renvoya tout le peuple chez soi. L'appel de Dieu sur nos vies aussi par le don de l'Esprit et cette onction d'huile sur nos vies parfois peut bouleverser nos vies. Elle dépose un appel, elle dépose des envies nouvelles, l'envie de servir Dieu, l'envie d'être témoin, l'envie d'avancer avec Dieu, de mieux le connaître, une soif pour l'Écriture, une soif de connaître d'autres chrétiens, de vivre en Église. Onction royale, tout est écrit dans un livre qu'on dépose dans le tabernacle pour que tout, voilà, les rois déjà aient y accès. C'est le psaume 1, c'est Josué 1, c'est voilà, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, c'est vrai pour tous ceux qui reçoivent l'onction. Le drame de Saül, c'est qu'il voudra mélanger l'onction, la prêtrise, sacrificateur et l'onction royale. À un moment donné, c'est quelqu'un qui est impatient, il aime quand ça avance. Samuel dit, tu vas aller à tel endroit et tu vas m'attendre. Puis au bout de plusieurs jours, Samuel n'est pas là. Samuel dit, bon, je vais offrir le sacrifice. Puis juste quand il le fait, Samuel arrive. Il lui dit, mais tu fais quoi là? Et puis il lui dit cette parole, Dieu regarde au cœur et il préfère l'obéissance au sacrifice. Je ne sais pas comment vous lisez l'Écriture, mais c'est intéressant de, voilà, parfois de lire toute l'Écriture rapidement et puis de tomber sur toutes ces petites paroles qui font des... Wow, où on apprend plein de choses au niveau spirituel. Saül a eu l'onction royale. Son cœur a été changé pour un temps, mais il n'a pas persévéré. Et puis il a voulu faire les choses par lui-même. On a vu que la gloire de Dieu, Israël, devait se lever et marcher quand la nuée, quand la gloire se déplaçait. Quand elle reste au même endroit, il fallait rester au même endroit. Saül n'a pas su garder sa place. Et puis à la fin de sa vie, il a fait encore pire. Il est allé voir une magicienne. Un épisode un petit peu dramatique pour savoir qu'est-ce qui va devenir. Il est allé voir le magicien en disant, voilà, nécromancienne, fais revenir Samuel d'entre les morts. Puis là, il vit quelque chose de, voilà, quand même de très ténébreux. C'est de l'occultisme. Et puis là, il y a un rejet de Dieu. Et puis, il y a le choix de quelqu'un d'autre. 1 Samuel, chapitre 16, juste avant de partir, Dieu dit à Samuel, voilà, ben on va mettre l'onction sur quelqu'un d'autre. 1 Samuel, chapitre 16. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül ? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile. Va !» Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. J'ai touché de secouer un petit peu Samuel qui a placé tous ses espoirs sur Saül. J'ai dit non, il y a un rejet, c'est quelqu'un par deux fois qui est parti dans des choses qui sont interdites. Pas s'approprier un service qui n'est pas le nôtre. Puis là, après, sur l'occultisme, voilà, je pense qu'aujourd'hui, les uns les autres, tout le monde est un petit peu bien au courant. Remplis ta corne d'huile et va faire l'onction royale. Et Samuel part, et pareil, il y a des beaux jeunes hommes, des beaux garçons. Et puis Samuel dit, waouh, c'est qui? Et puis il en manque encore un à l'arrivée d'Isaïe, mais est-ce que c'est là tous tes fils? Le plus petit, le plus... jeune, il garde les moutons. Ça me dit d'aller le chercher. Pareil, là, tu regardes au cœur et pas à l'apparence physique. C'est pas la beauté, les artifices qu'il faut qu'on ait rempli de l'esprit. Quelqu'un a lu ce matin le psaume 51. C'est de rentrer en soi-même. Dire Seigneur, voilà, pardonne-moi mes péchés. Ne me retire pas ton Esprit Saint, que cette corne d'huile soit tout le temps sur ma tête. C'est important cette onction sacerdotale royale. Il y a quelque chose de nouveau, on verra avec Jésus. Ces deux onctions sont sur nos vies. Là, c'est quelque chose de... Jésus fait toute chose nouvelle. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux. L'Éternel regarde au cœur. Souvent, Jean-Marc parle de David qui a eu des moments, c'est un guerrier, des moments d'élévation prophétique, de chant, c'était un chantre. Et puis à d'autres moments, il dit, mais voilà, malheur à moi, je suis un ver et non un homme. Jardinier, j'ai eu beaucoup de vers de terre dans ma vie. En même temps, c'est toute la richesse du sol. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est ce qui rend le sol vivant, tous ces petits animaux qui transforment voilà, les végétaux en choses qui sont mangeables. Ésaü l'envoya chercher, alors il était blond, avec de beaux yeux, une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile, loignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva, s'en alla à Rama. Tout de suite après, on a l'épisode avec Goliath. Jésus, rempli de l'Esprit, va se confronter à Goliath. Si vous regardez la vie de Jésus, vous verrez, il y a des choses qui sont un peu semblables. Jésus est rempli de l'Esprit à son baptême, puis aussitôt après, il est confronté à la puissance de l'ennemi, et puis il va en sortir vainqueur. C'est le nouveau David. Jésus est le nouveau David, mais c'est pourquoi tous ces hommes sont importants, sont des modèles pour nous. L'Esprit de l'Éternel saisit David. L'apôtre Pierre, au plus fort de sa forme, avant la Pentecôte, il a renié Jésus trois fois. Comment, 50 jours après, rempli de l'Esprit, aller à Jérusalem et dire, « Oh, frère, celui que vous avez crucifié, c'est lui qui est ressuscité, c'est le salut d'Israël. L'Esprit de l'Éternel saisit David. Les apôtres ont été saisis le jour de la Pentecôte. Nous sommes saisis le jour de notre propre Pentecôte. Remplis l'Esprit, car ce n'est pas l'esprit de timidité. Ça peut faire peur parce qu'en même temps, quand on est rempli de l'esprit, l'ennemi vient rôder autour de nous, comme un lion rugissant, voir si on est changé en notre homme, une autre femme, s'il y a quelque chose de nouveau dans notre vie. Et puis, Goliath et puis d'autres arrivent dans nos vies. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Et David va vivre toutes ses aventures. Ce n'était pas un homme parfait. C'est un homme qui nous ressemblait. Il avait des convoitises, des choses de la chair, des choses où il a parfois dérapé. Là aussi, il y a un très beau texte dans Samuel, les rois. L'Écriture nous dit qu'il y a eu la guerre entre la maison de Saül et la maison de David. Et David a trouvé refuge en Dieu. L'ennemi va tout le temps persécuter ceux qui vivent par l'Esprit, ceux qui reçoivent le Christ Jésus, qui veulent vivre pour lui. David va trouver refuge en Dieu et il va être un refuge pour ceux qui sont autour de lui. 1 Samuel 22, les versets 22-23. Il y a un souverain sacrificateur qui est persécuté par la maison de Saül. David dit à Abiathar, « J'ai bien pensé ce jour même que Doeg les Édomites, se trouvant là, ne manqueraient pas d'informer Saül. C'est moi qui suis cause de la mort de toutes les personnes de la maison de ton père. Reste avec moi, ne crains rien. Celui qui cherche ma vie, cherche la tienne. Près de moi, tu seras bien gardé. » Jésus, le nouveau David, nous garde auprès de lui. Quand l'ennemi nous court après pour essayer de nous faire tomber, ça ne veut pas dire que l'onction d'huile, l'onction de Dieu, la vie dans l'esprit, ça ne veut pas dire que c'est toujours facile. Certains tombent au combat. Reste avec moi, ne crains rien. Celui qui cherche ma vie, cherche la tienne. Près de moi, tu seras bien gardé. Dans toute l'écriture, il y a comme ça des petits textes qui ont l'air de rien, mais qui peuvent nous faire entrer dans des nouvelles promesses, dans des nouvelles expériences avec Dieu. Voilà, peut-être parmi nous, certains ont l'impression que l'ennemi essaye de les faire tomber. Voilà, pouvoir trouver refuge auprès de Jésus, le nouveau David, le Messie, le Christ. Près de moi, tu seras bien gardé. J'ai découvert ce texte il y a maintenant très longtemps, puis souvent j'y pense. C'est les textes auxquels on peut revenir. Seigneur, j'ai besoin de ta protection, j'ai besoin d'un refuge, j'ai besoin d'être protégé par ton onction. Ça ne veut pas dire qu'on est 100% parfait. L'ennemi essaye d'accrocher parfois nos désordres intérieurs. C'est une occasion, voilà, pour pouvoir trouver refuge en Dieu et pouvoir continuer à vivre de cette onction. Onction royale, onction prophétique. Bien sûr, ceux qui nous introduisent dans ce domaine, les premières mentions, c'est l'histoire d'Élie et d'Élisée. On lit ensemble dans 1 Roi, chapitre 9. Élie est un prophète. À l'époque, il y a beaucoup d'idolâtrie en Israël. Il y a un couple royal, Akab et Jézabel, on dit qu'ils sont de la pire espèce. Ils sont pratiquement carrément sataniques. Ils vivent dans les ténèbres. Jézabel pratique les choses occultes, persécute tout ce qui est de Dieu. Elle nourrit, elle s'occupe de 450 prophètes de Baal. Prêtre de Baal. Donc c'est une période où tout est compliqué en Israël. Et puis là, il y a un homme qui se dresse contre tout ça. Et puis voilà, il met un autel, il met des bœufs, puis il réunit tous les prophètes, puis il leur dit, voilà, si votre Dieu vous répond, c'est Baal qui est Dieu, mais si c'est le mien, puis vous connaissez l'histoire. Le feu va tomber du ciel après que Élie ait fait cet autel. Il a tout rempli d'eau. Et le feu de Dieu tombe. Et après, il a un moment de déprime. après avoir été au plus haut, il va traverser un temps difficile. Il va se réfugier dans un désert. C'est un épisode assez tragique. Tragique pour Israël. Cet homme est tout seul. Traverse des moments difficiles. Il va aller rencontrer Dieu sur une montagne. Et puis là, il y a... Jouf, le souffle, le vent de Dieu. Dans ces moments-là, pouvoir rencontrer Dieu dans la tranquillité. Il y a des séismes, du tonnerre, des éclairs, beaucoup de bruit, puis Dieu n'est pas dans tout cela. Élie rencontre Dieu dans le calme de son intériorité, là où il peut entendre ce léger souffle de Dieu. Puis Dieu lui dit, mais non, t'es pas seul. Tout le monde n'a pas plié le genou devant Baal. Va, et là je t'envoie. Et il dit, prends ta corne d'huile, c'est-à-dire prends ce qui va servir à l'onction. Tu vas aller oindre deux rois et un nouveau prophète pour te remplacer. On lit ça dans Deux Rois, chapitre 2, les versets 1 et 2. J'ai un souci avec mes notes là. 1 roi 19, voilà. Ça doit être affiché au tableau. Verset 15, l'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Tu oindras Élisée, fils de Shaphat, pour prophète à ta place. Il arrivera que celui qui échappera à l'épée d'Hazaël, Jéhu le fera mourir. Celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal, dont la bouche ne l'a pas embrassé. » Élie partit de là, il trouva Élisée, qui labourait. Il avait devant lui 12 paires de bœufs. Il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui. Il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie, dit, « Laisse-moi embrasser mon père, ma mère, je te suivrai. » Élie lui répondit, « Va et reviens, pense à ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, il revint avec une paire de bœufs, il l'offrit en sacrifice avec l'attache des bœufs. Il fit cuire leur chair, la donna à manger au peuple, il se leva, suivit Élie et fut à son service. Une onction prophétique. Élisée prend le temps de la recevoir. Dieu veut faire lever un peuple nouveau. On dit que peut-être l'Église apostolique, il y a un peu plus d'un siècle, était une Église prophétique. On a dans cette Église un fort courant d'inspiration. Prions pour tous ceux qui portent cette parole d'inspiration, cette parole prophétique. Élisée a servi Élie. On a souvent des binômes comme ça dans l'Écriture. On a Moïse et Josué. Deux Rois, chapitre 2, verset 1. Élie va partir. Et il va se dérouler quelque chose d'extraordinaire. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant, mon âme est vivante, je ne te quitterai pas. » Et ils descendirent à Bethel. Verset 8. Alors Élie prit son manteau, le roula, frappa les eaux qui se partagèrent, çà et là, ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de mon esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile. Si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera. Sinon, cela ne t'arrivera pas. » Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu, des chevaux de feu les séparèrent, l'un de l'autre. Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait, criait, « mon père, char d'Israël, cavalerie !» Il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux. Il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Il retourna, s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Il frappa les eaux et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et Élisée passa. Continuité dans le ministère prophétique. Deux hommes extraordinaires qui symbolisent toute cette onction de l'esprit au niveau prophétique. Élisée a marché auprès d'Élie jusqu'au bout. Il n'a rien lâché. Et puis à la fin, il dit que je vive, que je reçoive une double onction. Et il reçoit le manteau d'Élie, couverture spirituelle. Les deux vont vivre plein de vers. Les deux sont aussi des figures du Messie qui devait venir. Et Jésus reprendra dans sa vie une bonne partie de ce que ses modèles ont vécu. Jésus va le reprendre pratiquement, voilà, onction pour onction. Je ne te quitterai pas. Pouvoir s'attacher à Dieu, même au travers des temps difficiles, même si l'ennemi nous court après, même si l'ennemi nous persécute, ou si l'ennemi essaye de nous faire décrocher. Élie a presque décroché. Il dit, mais Seigneur, voilà, j'en ai marre, c'est trop lourd pour moi. Puis il dit, mais non, t'es pas sale. Et puis voilà, ton ministère va continuer. Onction royale, onction prophétique, et puis Élisée. Ce sont des hommes comme nous qui ont été au service de Dieu. Ni plus faible, ni plus fort. Semblable à chacun d'entre nous. Cette onction avec l'huile, elle signifie que ça appartient à Dieu. Le tabernacle, le temple, tous les ustensiles, tout était consacré à Dieu. Tout appartenait à Dieu en propre, en propriété. Nous pouvons, si nous le voulons, appartenir à Dieu en propre, en propriété. Et pour cela, il verse une onction d'huile. Il nous met à part. Il veut que nous lui appartenions entièrement. Avec nos faiblesses, avec nos erreurs, mais aussi avec toutes nos possibilités, toutes nos richesses. Et il veut nous en donner encore plus. Nous ne perdons rien à suivre et à servir Dieu. Au contraire, il nous rajoute des choses. On continuera la fois prochaine, voir comment cette onction messianique s'est transmise au travers de Jésus. Père Céleste, merci pour cette onction de l'Esprit. Merci Jésus. Merci Christ Jésus de nous faire entrer dans cette onction de ton Esprit. Merci de nous mettre à part. Merci parce qu'au travers de toi, nous sommes rois, sacrificateurs, prophètes. Merci de toutes ces onctions sur ton Église, tous ceux qui sont dans le service, chacune de nos vies. Merci de nous équiper les uns et les autres pour te servir. Amen.